Les autorités japonaises doivent commencer à évacuer du bateau de croisière en quarantaine certains passagers âgés qui ont été testés négatifs au coronavirus. Le nombre de contaminations parmi les occupants du Diamond Princess a grimpé à 218 hier après de nouveaux résultats d'analyse. Alors, le Diamond Princess est devenu le second site en importance de contamination du coronavirus après la Chine. Le dernier bilan fait état de 1384 décès au total et plus de 64 000 cas.
Et au moment où on parle de tous ces cas de coronavirus, et qu'on a même trouvé un nouveau nom, là, il s'appelle COVID-19 maintenant. Là, ça fait trois jours qu'on est obligé de s'habituer à un nouveau nom. On travaille déjà à élaborer des vaccins pour essayer d'enrayer justement cette propagation de COVID-19. Et il y a un docteur qui s'appelle Gary Kobinger, qui est l'un des grands spécialistes vaccinologues de l'Université Laval, grand spécialiste mondial des vaccins, qui a mis au point déjà une première version d'un vaccin. Il est avec nous. Bonjour, Dr. Kobinger.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va très bien vous-même?
Oui, merci.
C'est allé vite. Vous avez déjà réussi à faire une version du vaccin. Donc, le vaccin existe en ce moment.
Ah oui, puis il y en a plusieurs versions. On n'est pas les seuls. Il y en a plusieurs candidats qui ont été générés aux États-Unis, en Europe, en Chine aussi. Évidemment. Oui. Et donc, ce qui va être important, c'est d'en tester le plus possible et de voir les plus prometteurs en termes d'abord de sécurité et en deuxième position, évidemment, l'efficacité.
OK, parce que là, vous avez élaboré, évidemment, une version du vaccin. Vous ne savez pas si cette version-là est efficace, c'est ça?
Exactement. Mais bon, comme on avait un vaccin contre le SRAS à l'époque qu'on savait efficace, Et on a présentement un vaccin contre MERS, qui est un cousin du coronavirus actuel, qui est en étude clinique et on sait aussi qu'il est efficace. On est très très confiant que ce vaccin-là qu'on a maintenant va être aussi efficace, utiliser la même stratégie de développement, sauf qu'il faut quand même s'en assurer, il faut quand même faire toutes les études, il faut quand même regarder, s'assurer de la tolérance, de la réactogénicité, etc. Mm-hmm. Donc, il y a encore quand même du travail à faire.
Oui, parce que je lisais que quand c'est bien beau d'élaborer une version de vaccin, mais avant qu'elle soit homologuée pour être distribuée à des populations humaines, il y a tout un processus, n'est-ce pas?
Ah, tout à fait. Écoutez, nous, ce qu'on espère, c'est d'être entré en études cliniques dans les prochains mois, mais c'est seulement une phase 1. Après ça, je pense que les estimés les plus optimistes que j'entends, puis je les trouve vraiment optimistes. Pourtant, on a dans notre consortium battu le dernier record d'avoir mis un vaccin en clinique en moins de 7 mois.
Ouais.
D'avoir un vaccin vraiment sur en étude clinique de phase 3, qui est la dernière phase, en moins d'un an, ça serait vraiment quelque chose de fantastique et exceptionnel. Mais vous savez, avec l'expérience qu'on a eue en Afrique de l'Ouest, on a vu quand les gens se mettent ensemble pour travailler ensemble à tous les niveaux, que ce soit pharmaceutique, académique et politique, gouvernement, les choses peuvent avancer très vite.
Et là, vous faisiez...
Bon, faut quand même être réaliste. Ça va prendre du temps.
OK. Vous faisiez référence à l'Ebola, j'imagine, hein, dans l'Afrique de l'Ouest.
Oui, tout à fait. Pardon, oui.
Est-ce que c'est possible? Parce qu'on dit que le COVID-19, c'est une version de ce qu'on appelle les coronavirus qui sont une espèce de gamme assez large, là, de virus. Est-ce que ce serait possible d'élaborer un vaccin qui couvrirait l'ensemble de ces coronavirus?
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Si on avait continué à partir du SRAS en 2002-2003, aujourd'hui, on aurait certainement un très bon candidat pour un vaccin qui couvre au moins tous les coronavirus qui infectent les humains, qui sont connus pour infecter les humains.
Ouais.
Maintenant, comme on est un peu à la course ici, on essaie de mettre la barre un peu plus basse et de développer un vaccin qui est spécifique de cette souche présentement qui a émergé. Mais vous avez tout à fait raison. Après ça, d'ailleurs, je pense que la priorité, ça va être de se mettre sur un vaccin universel de coronavirus humain pour qu'on ne soit pas à la course comme ça à chaque fois.
Mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris de 2003 pour avoir arrêté de financer le développement d'un vaccin comme celui-là, universel?
Bon, malheureusement, maladies infectieuses, quand les pathogènes disparaissent, l'intérêt disparaît aussi. On suit les priorités du jour. Souvent, on n'a pas, on a de la difficulté à maintenir l'intérêt, le momentum et de fermer des portes. C'est ce qu'on a discuté pendant plus de 10 ans parce que à cause du SRAS justement.
Ouais.
Et on voyait la même chose avec le MERS. Mais je pense que cette fois-ci, ça peut être justement, ça va éveiller plus d'intérêt pour fermer des portes après que le virus soit parti, puis qu'on continue à faire au moins un niveau de développement qui va nous protéger pour l'avenir. Mais en maladie infectieuse, comme j'ai dit, le problème, c'est que, ou la difficulté, c'est que l'intérêt disparaît quand le pathogène disparaît,
Mais
en majorité.
si on arrivait avec votre vaccin, mettons, là, puis on réussit à le développer puis à le rendre accessible à la population humaine assez rapidement, est-ce que ça permettrait de régler les cas de gens qui sont déjà infectés ou de prévenir l'infection exclusivement?
Non, oui, c'est la vaccination, donc c'est vraiment de prévenir l'infection. Mais vous savez, le vaccin Ebola qu'on a contribué à développer était capable de générer une protection en 10 jours. Et c'est très rapide en 10 jours. Mais ça peut avoir un impact très, très important. Vous savez, juste en vaccinant déjà les travailleurs de la santé pour qu'ils soient plus confiants de venir à la maison, de pas être infectés, pardon, à la maison, au travail et de retourner à la maison sans crainte d'être infecté, de revenir avec un pathogène. C'est déjà une grosse, grosse victoire. Donc, la vaccination, c'est vraiment pour prévenir, mais il y a beaucoup de thérapies, présentement, de médicaments qui sont en études cliniques, qui étaient déjà approuvés pour d'autres indications. La Chine est en train de conduire plus de 30 essais cliniques en parallèle qui testent différentes approches, donc différents médicaments. Pour essayer d'aider les gens qui sont malades.
OK. Donc votre vaccin à vous, c'est un parmi tant d'autres, vous le disiez tout à l'heure. Vous dites que la Chine en a donc une trentaine de versions, c'est ça?
Non, la trentaine de versions, pardon, c'est des médicaments, c'est pas des vaccins.
Ah bon, d'accord.
C'est pour prévenir, oui, oui. Et les médicaments, c'est pour traiter. Donc, nous, on est dans la prévention. Pardon. Mais évidemment, la prévention, ça peut avoir un impact très important et beaucoup plus important, justement, que le traitement.
Ouais.
Les deux sont importants, en fait, pour agir à deux niveaux différents.
Donc, vous êtes...
Oui, il y en a plusieurs. Oui, il y a plusieurs vaccins, mais c'est important qu'on teste plusieurs plateformes, plusieurs vaccins pour arriver avec au moins deux en bout de ligne qui sont les plus prometteurs et surtout les plus sécuritaires avec les profils d'acceptabilité les plus élevés.
Bon, je terminerai en vous posant la question parce que vous, des virus, vous en avez vu plusieurs dans votre carrière, là. Est-ce que celui-là, le COVID-19, et vous étonne par sa virulence?
Non, pas du tout. Il m'étonne par la transmissibilité, parce que d'habitude, les coronavirus se transmettent pas tellement bien. Mais celui-là, clairement, quand on voit l'expansion, etc., c'est un qui se réplique d'ailleurs dans les voies respiratoires plus hautes. D'habitude, c'est plus dans le bas des poumons, si vous voulez.
Ouais.
Ça m'étonne. C'est le premier qui se réplique, qui se transmet aussi bien. Mais la virulence, faut pas s'énerver trop, hein. On parle certainement de moins de 1% parce qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas détectés pour l'instant. Donc, le dénominateur n'est pas encore connu avec précision.
Ouais.
Quand on fait le calcul, on arrive autour de 2%, mais on est certainement en dessous de 1%. Donc, on ne parle pas d'un virus qui tue 10, 20, 30, 50, 60% de la population comme Ebola. Donc, c'est oui, 1%, c'est élevé quand même. Oui, chaque personne compte. Il ne faut pas s'énerver, paniquer avec ça quand même. C'est un virus du rhume.
D'accord. Merci beaucoup, Dr. Kubinger, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir et bonne chance dans vos recherches. Le Dr. Gary Kubinger est vaccinologue de l'Université Laval. Il a élaboré l'une des versions, donc, d'un vaccin contre le COVID-19.